fin du mois. Et cette nouvelle, elle a suscité pas mal de questions. On l'a vu dans les médias. Voici sur le site du Monde les questions qui étaient posées. Dénote-t-elle un état de crise ou annonce-t-elle une réforme de l'institution et de la doctrine de l'Église? Le prochain pape doit-il rester européen ou être originaire d'un autre continent? Comment la papauté peut-elle s'inscrire dans la modernité? Est-elle en mesure d'appréhender les défis de la mondialisation? Et avec ce genre de questions, on réalise que quand on vit une transition, il y a toutes sortes de questions qui sont posées. Et comme un petit séisme, un changement est attendu et on s'inquiète de ce qui va se passer. Alors il y a quelqu'un qui est là ce soir et qui se dit « Mais moi, changement de papauté, ça ne me fait ni chaud ni froid. » Mais alors pourquoi autant d'intérêt autour de la mort de Steve Jobs? Pourquoi autant d'intérêt autour de l'affaire DSK? Pourquoi autant d'intérêt sur les élections? Et si ce n'est pas sur un plan international ou national, pourquoi s'inquiéter quand il y a un changement dans la direction d'une entreprise ou dans une grande école? Avec des questions comme est-ce que je vais connaître davantage de précarité? Est-ce que l'entreprise ou l'école va être moins bien vue, moins bien cotée? Si on est honnête, on expérimente des secousses quand il y a un changement et on se demande ce qui va venir par la suite. Et on se tourne généralement vers les leaders pour qu'ils nous assurent une certaine stabilité, une certaine sérénité quant à l'avenir, quant à la direction à donner. Et c'est un peu ce qu'on rencontre ici avec la situation d'Israël. On l'a vu à l'occasion de cette transition où Samuel devient vieux. Il y a ce moment charnière où le peuple demande l'instauration de la royauté. Jusque-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Et on va se poser deux questions sur la base de notre texte. Qu'est-ce qu'il y a derrière la sollicitation d'un roi? Et qu'est-ce qu'il y a derrière l'obtention d'un roi? On l'a dit, dans la recherche d'un leader, il y a la recherche d'une certaine sécurité. Mais on verra que derrière cette demande, il y a aussi quelque chose d'autre. Et on va voir à la fois dans la sollicitation et aussi dans l'obtention d'un roi. Il y a à chaque fois quelque chose à relever. On va commencer avec qu'est-ce qu'il y a derrière la sollicitation d'un roi. Samuel est celui qui est juge en Israël à cette époque. Et quand on regarde le chapitre précédent, on constate qu'il y a une certaine paix qui a été instaurée du fait qu'il était droit, qu'il était intègre. Au verset 14, on entend cette paix. Il instaure une certaine justice. Mais petit à petit, le peuple sent venir la transition. Il le voit devenir vieux, justement. Et ses deux fils, qu'il assiste dans son rôle de juge, n'ont pas la même droiture que lui. Est-ce qu'il les a mis en place pour lui succéder ou est-ce qu'ils sont simplement là pour l'aider? Difficile à dire. Mais en tout cas, on peut relever qu'il y a déjà un goût de déjà-vu dans cette situation où un leader à deux fils qui ne se comportent pas comme lui. On l'a vu déjà dans ce livre, pour ceux qui étaient là quand on a commencé cette série dans Samuel, on se souvient qu'Élie avait deux fils qui eux aussi étaient corrompus. Et là, ici, dans notre situation, les anciens du peuple viennent vers Samuel pour lui dire « Toi, tu es vieux et tes fils ne suivent pas tes voies. Maintenant, donne-nous un roi qui soit notre juge, comme en ont toutes les nations. » Alors Samuel, il est attristé par cette demande, mais il a une bonne réaction, celle de se tourner vers Dieu dans la prière. En écoutant la demande, on pourrait se dire, mais c'est un rejet de sa propre personne. Après tout, ils disent, donne-nous un roi qui soit notre juge, qui instaure la justice. N'est-il pas, lui, le juge? Mais alors que Samuel vient vers Dieu dans la prière, Dieu lui dévoile que ce n'est pas lui, Samuel, qu'il rejette, mais Dieu lui-même. Où est l'offense? Où est l'offense dans cette demande? Parce qu'après tout, quand on lit le livre du Deutéronome, écrit plus tôt, bien plus tôt, dans la loi de Moïse, on trouve Deutéronome 17, verset 14, « Lorsque tu seras entré dans le pays que le Seigneur ton Dieu te donne, lorsque tu en prendras possession et que tu y habiteras, et que tu diras, « Je veux placer un roi à ma tête, comme toutes les nations qui m'entourent, tu pourras placer un roi à ta tête, celui que le Seigneur ton Dieu choisira. » Après tout, si c'était dans la loi, et que ça semble légitime. Qu'est-ce qu'il y a de tordu? Qu'est-ce qu'il y a d'attristant dans cette demande? La réponse de Dieu à Samuel le met en évidence. Ils ne veulent plus que je sois roi sur eux. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ce jour. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Derrière cette requête, il y a en fait le refus que Dieu soit reconnu comme le roi de toujours. Autrement dit, ils cherchent un substitut à Dieu, quelqu'un qui va prendre sa place. Pas un roi qui sera sous l'autorité du plus grand roi, de Dieu lui-même, mais un substitut, quelqu'un qui va prendre sa place, comme ils l'ont déjà fait auparavant. Ça se vérifie quand on fait le contraste entre le chapitre 7 et le chapitre qu'on a lu. Dans le chapitre 7, on voit qu'il y a une situation de crise et le peuple va se diriger, alors qu'il y a une attaque sur le plan militaire, ils vont se diriger vers Samuel pour lui dire « Ne garde pas le silence, crie pour nous vers le Seigneur, notre Dieu, pour qu'il nous sauve de la main des Philistins. » Tout en s'approchant de Samuel, il réalise qu'au-dessus, c'est Dieu qui agit, c'est Dieu qui les sauve, et c'est bien vers lui qu'ils se tournent. D'ailleurs, le nom donné à l'endroit pour se souvenir de cela est Ébénézer, pierre de secours, en disant « Jusqu'ici, le Seigneur nous a secourus. » Mais ici, dans la requête adressée au chapitre 8, on n'entend pas cette demande vers Dieu, c'est plutôt « Donne-nous un roi !» Donne-nous un roi. Autrement dit, une demande qui paraît légitime, logique, normale au début, elle est entachée. Qu'est-ce que ça peut nous dire à nous? Qu'est-ce qu'on peut retirer de ce récit pour nous? L'autre jour, j'ai dû amener la voiture pour faire changer les pneus, et le garagiste donc m'a appelé pendant la journée pour me dire à combien ça allait se monter. Et en fait, il a commencé par dire, oui, en fait, il y a les pneus, mais il n'y a pas simplement les pneus. Il y a les freins, il y a les amortisseurs. Et finalement, j'ai en fait un devis qui fait deux pages des choses à changer. Et là, quand vous l'avez au bout du fil, vous dites, je suis venu pour deux pneus. Et là, vous avez fait une liste de deux pages. Comment est-ce que vous auriez réagi? Je ne sais pas si vous auriez réagi différemment. Vous auriez peut-être été surpris. Et ensuite, de vous dire, mais est-ce qu'ils ne veulent pas finalement profiter de la situation d'avoir la voiture sous la main pour alors que ce n'est pas le garage où je vais d'habitude, pour faire toute une série de changements? Est-ce que ce n'est pas le cas quand on a quelqu'un, un agent immobilier qui nous parle de tel ou tel appartement? Est-ce qu'on ne va pas suspecter à un moment donné qu'il est peut-être biaisé dans sa manière de présenter les choses? Ou alors tel vendeur dans un magasin qui nous dit ce dont nous avons besoin? En règle générale, on est facilement à suspecter qu'il y a peut-être un appât du gain, du profit. Mais la question qu'on doit se poser, à mon avis, c'est on est capable de le déceler chez les autres? Est-ce qu'on est capable de le déceler chez soi? Dans ce qu'on demande, nous? Dans ce qu'on souhaite, nous. C'est vrai, après tout, les anciens voyaient la corruption des fils de Samuel, ils arrivaient à le voir, mais est-ce qu'ils arrivaient à voir dans leur requête la recherche d'un roi, quelque chose de tordu, de corrompu? Dans notre série sur la fin de la lettre aux Hébreux, on a cité cette parole de Nietzsche, « Dieu est mort », en rappelant ce qu'il dit ensuite, et nous l'avons tué. Et dans son livre « Aurore », Nietzsche affirme que l'être humain a tendance à trouver des substituts pour Dieu. Voici ce qu'il écrit. Ce que l'on faisait autrefois pour la volonté de Dieu, on le fait maintenant pour la volonté de l'argent, c'est-à-dire pour ce qui donne maintenant le sentiment de puissance le plus élevé et la meilleure conscience. Dans le contexte de la situation, il parle des différents signes de notre société qui montre que nous sommes attirés par le profit. Que ce soit les placements, les spéculations, les questions de rentabilité, d'exigence. Et finalement, on réalise qu'il y a effectivement des substituts qu'on choisit facilement, et l'argent peut en être un. Et que je sois croyant ou pas, est-ce que je suis capable de voir dans mes propres aspirations, dans mes propres requêtes, dans ma propre manière de vivre cette corruption, ou est-ce que je la vois simplement chez les autres? Mais il y a probablement d'autres leçons à tirer de ce texte. On constate chez les anciens qui viennent vers Samuel la tendance à chercher une solution technique plutôt que théologique. Une solution technique plutôt que théologique. C'est pas la première fois qu'on les voit venir vers Samuel. Au chapitre 4, suite à une défaite sur le plan militaire, ils demandent à ce qu'on fasse... En fait, c'était pas Samuel, c'était Élie à ce moment-là. Mais au chapitre 4, ils font la demande « Faites venir l'arche avec l'armée au combat. » Autrement dit, si on a l'arche avec nous, l'arche de l'Alliance qui se trouvait dans le tabernacle, si on a l'arche avec nous, tout ira bien sur le plan militaire. Ça n'a pas apporté le changement qu'ils souhaitaient. Mais plutôt que de se remettre en question dans leur manière de vivre leur relation à Dieu, ils cherchent cette solution technique plutôt que théologique. Cette remise en question, cette repentance nécessaire. Faire venir l'arche, sollicitation d'un roi. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que je suis constamment en train de mettre sur le dos de changements techniques, organisationnels, des questions qu'il faudrait que je me pose sur un plan théologique? Est-ce que j'attribue ma difficulté à trouver du temps dans la journée, ou le type de travail que je fais, ou les relations que j'ai et que je dois maintenir, ou les engagements que j'ai, ma difficulté à vivre ma foi, à être renouvelé dans cette foi que je vis avec Dieu, à vivre cette vie à laquelle Dieu m'a appelé? Est-ce que je mets sur le compte de ces questions techniques ou organisationnelles la manière dont je vis? Alors qu'au départ, il y a avant tout une remise en question à avoir vis-à-vis de Dieu. Une autre leçon qu'on peut peut-être tirer de cette requête qu'ils sont venus faire, c'est qu'on peut reconnaître qu'il y a des choses qu'on demande et qui sont parfaitement logiques, rationnelles, légitimes. Après tout, le roi est mentionné dans la loi. Le roi, c'est quelqu'un vers lequel on se tourne pour avoir un leader. Après tout, les nations autour de nous ont toutes des rois. Est-ce que ce n'est pas juste, légitime, rationnel, de chercher un roi? Et dans une demande qu'on peut constamment faire vers Dieu, avec insistance, est-ce qu'il y a l'aspiration finalement à un substitut, quelque chose qui doit prendre sa place? Un substitut qui prend la forme d'un bonheur ou d'une santé, d'un mariage ou d'une famille, de collègues compréhensifs, compétents, une bonne classe, des amitiés solides. Et si j'ai la chose en question, alors j'aurai tout ce qu'il me faut. À travers l'Ancien Testament, on découvre toutes sortes de requêtes adressées à Moïse, à Samuel et aux prophètes en général, à la recherche d'une sécurité par le biais d'un substitut. Cadre de vie, telle nourriture, telle situation. Il faut réaliser qu'à chaque fois, le substitut n'est pas à la hauteur. Et il est en même temps un rejet du roi, du véritable roi. Et ça se voit même au temps de Jésus. Jésus le dira dans une parabole dans Luc 19. Le message est toujours le même. Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous au sujet de Jésus. Et cette invitation à réaliser ce qu'il y a derrière cette requête. On passe maintenant à la deuxième partie. Qu'est-ce qu'il y a derrière l'obtention d'un roi? Il y a des choses qui sont frustrantes quand on a envie un changement. Imaginez que vous ayez un fournisseur Internet avec lequel vous avez des problèmes et vous vous dites « je vais changer pour obtenir un meilleur fournisseur ». Le problème, c'est que vous passez à un autre fournisseur et les problèmes sont encore plus grands. Les solutions sont encore plus difficiles à trouver. Vous n'arrivez pas à les joindre. Idem pour un programme sur votre ordinateur ou un forfait de portable. On pensait avoir trouvé la solution, mais en fait, c'est la même chose ou c'est encore pire. Si on revient ici en arrière sur le problème ou un des problèmes que les anciens soulevaient au départ, c'était quoi ? Le fait que les fils de Samuel ne se comportaient pas selon sa droiture. Quelle est la solution pour eux ? La meilleure solution ? C'est fou quand on y pense. Quelle est l'option que vous mettez de côté si vous réalisez, c'était déjà le cas avec Élie, ses deux fils étaient corrompus, Samuel, ses deux fils sont corrompus. Quel est le système que vous allez mettre en place pour éviter qu'il y ait ce genre de problème ? On éviterait à coup sûr la royauté, non ? On voudrait enlever toutes les questions de dynastie et d'un successeur qui sera de la même lignée. Et pourtant, c'est exactement cela qu'ils demandent. C'est ça qu'ils avaient constaté. Et là, la solution qu'ils souhaitent, c'est la royauté. À nouveau, il faut reconnaître qu'il y avait quelque chose de naturel et de normal à vouloir un roi. Et c'était même mentionné dans la loi. Mais dans les motivations, dans la sollicitation, on voit que c'est malvenu. Et une des choses que Dieu veut s'assurer de faire, c'est de leur faire connaître dans quoi ils entrent. Maintenant donc, écoute-les, mais avertis-les et fais-leur connaître les droits du roi qui régnera sur eux. Qu'est-ce qu'il y a derrière l'obtention d'un roi ? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette requête acquise ? Il se fait le porte-parole, Samuel, de Dieu, et on peut relever à l'écoute quelques éléments. Et le premier, c'est la répétition du mot « prendre ». Écoutez plutôt. « Il prendra vos fils, et il les affectera à ses chars et à ses attelages. Il prendra vos filles, comme parfumeuses, cuisinières, boulangères. Il prendra le meilleur de vos champs, de vos vignes, etc. Il prendra la dîme de vos semailles. Il la donnera à ses hauts fonctionnaires et aux gens de sa cour. Il prendra les meilleurs de vos serviteurs, etc. Il prendra la dîme de vos récits. » Il prendra. Deuxième, c'est le résumé au verset 17. « Ainsi, vous deviendrez ses esclaves. » D'où est-ce qu'ils étaient sortis, ce peuple d'Israël ? Ils étaient sortis de l'esclavage en Égypte. Ils avaient connu une délivrance magistrale. Et là, à vouloir un roi qui règne sur eux, ils sont en train d'entrer dans un esclavage. Samuel peut donc, à la demande de Dieu, dévoiler clairement les implications douloureuses de cette démarche. Et quelle est leur réaction ? Tant pis, il y aura un roi sur nous. Et nous aussi, nous serons comme toutes les nations. Notre roi sera notre juge, il conduira nos armées et mènera nos guerres. C'est une chose de ne pas voir quand on pose la question, quand on demande quelque chose, de ne pas voir combien la demande est tordue. Mais une fois qu'on vous le dit, qu'on nous le dit, qu'on dit les implications, d'insister, c'est encore un autre pas, n'est-ce pas ? Qu'est-ce qu'il y a comme implication ou application pour nous ? Est-ce qu'il y a dans mes demandes à Dieu une obstination qui fait que je vais demander encore et encore sans être prêt à reconnaître qu'il sait ce qui est bon pour moi ? Et lorsqu'il ne me donne pas ce que je lui demande avec insistance, est-ce que je dois en conclure que c'est parce qu'il ne m'aime pas ? Parce qu'ici, c'est précisément l'inverse. Ils insistent tellement à demander quelque chose qui va les rendre esclaves. Ok, il leur donne, mais c'est comme un jugement. Vous voulez tellement ça ? Vous allez l'obtenir. Si je demande avec insistance et qu'il ne le donne pas, est-ce que ça ne pourrait pas être un signe d'amour et de grâce, de patience ? Une autre chose qui, à mon avis, doit être relevée, c'est cette petite remarque qu'on retrouve à deux reprises, comme toutes les autres nations. On l'a vu dans le passage de Deutéronome, il n'y a rien de mal dans la demande, c'est presque mot pour mot ce qui était mentionné. Mais il y a comme une insistance dans leurs paroles. On veut être comme toutes les nations. La ressemblance au point de vue de la royauté, à tout prix. On peut imaginer le genre de raisonnement. Après tout, toutes les nations autour de nous, elles ont un roi. On n'est plus à l'âge du bronze, on est à l'âge du fer, il faut qu'on revienne dans la marche, là. On est à la traîne. J'ai vécu mon enfance en Suisse et je me souviens d'un jour où un petit orchestre de l'Armée du Salut est venu au bas de l'immeuble. Il jouait au bas et nous, on était en train de jouer en tant qu'enfant. Je ne me souviens plus quel âge j'avais. Et à un moment donné, les musiciens ont engagé la conversation avec nous et ils ont demandé si on connaissait la signification du mot « Alléluia ». Moi, je ne savais pas, mes amis ne savaient pas. Et il y a un de mes amis qui dit « Ah ben, on va demander à ton père ». Et ils ont sonné et à l'étage, mon père est sorti sur le balcon. Ils ont échangé quelques mots entre les personnes de l'Armée du Salut. Et puis, avec un bon accent irlandais, il a pu dire « Alléluia, c'est en effet gloire à Dieu ». Et je me souviens que mon état d'esprit à ce moment-là, c'était quoi ? C'était la honte. C'était la honte. Pourquoi est-ce que j'avais honte ? Je pense que probablement parce que mon père parlait avec un accent irlandais à couper au couteau, à la différence de tous les autres parents. Mais plus encore, parce que tout le monde savait qu'on était chrétien. Il savait que quand on posait la question, il allait connaître la réponse. Et moi, je ne voulais pas être différent des autres enfants. Mais pourquoi est-ce que je devrais avoir honte d'être chrétien ? Pourquoi est-ce que je devrais avoir honte d'être chrétien ? À la manière de ce peuple, est-ce qu'il y a comme cette obstination à vouloir être comme les autres ? Pas être différent, pas être en marge. Comme cette logique, on ne veut pas être différent des autres. On veut être comme toutes les autres nations, avoir un roi. Dans un sens, c'est vrai que la différence, elle n'est pas perceptible quand on va mettre tout l'accent sur nos loisirs ou sur nos amitiés, nos relations, notre travail. Si on met tout l'accent là, il n'y aura pas de différence, c'est vrai. Mais est-ce qu'on va trouver dans chacune de ces choses un véritable substitut qui libère, qui nous libère, qui nous donne une vie en abondance ? Il était légitime de souhaiter un roi. Cette aspiration, elle est présente tout au long de l'Ancien Testament. Des promesses faites à Abraham, en passant par les prophéties à Judas, jusqu'aux prophètes les plus tardifs. On attendait à juste titre un roi, mais dans cette attente, il y avait cette vocation à être différent, à être saint, une nation distincte parce que attachée à Dieu et vivant dans cette relation avec lui. Et dans cette attente d'un roi à venir, on voit qu'il y a, dans l'entretien que Jésus va avoir avec Pilate, une distinction. Lorsque Pilate lui demande s'il est le roi des Juifs, Jésus lui affirme clairement qu'il n'est pas comme un roi de ce monde. Mon royaume n'est pas de ce monde. Il est différent. Et quel roi se mettrait à laver les pieds de ses disciples ? Quel roi donnerait sa vie en rançon pour ses serviteurs ? Quel roi accepterait d'être ridiculisé comme un faux roi, couronne d'épines, roseau en guise de sceptre, alors qu'il est le vrai roi? Mais s'il l'a fait, c'est pour payer le prix de notre corruption. Et c'est ce roi-là qui est fiable, c'est ce roi-là qui est digne de régner sur nous. Il est le roi digne d'être suivi jusqu'au bout, il est le roi qui libère, il est le roi qui restaure quand on l'a offensé. Il est le roi devant qui on a envie de tout donner. Je vous invite à la prière. Notre Père, nous voulons te demander pardon pour toutes les fois où nous n'avons pas voulu que tu règnes sur nous, où nous avons tout simplement voulu être dans le moule, bien vu des autres, et certainement pas différent. Nous te remercions, Père, de ce que, en Jésus, nous avons quelqu'un qui a su s'identifier à nous et s'abaisser jusqu'au plus haut point. Merci pour un tel roi. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de vivre différemment à cause de ce qu'il a fait pour nous. Accorde-nous, Seigneur, d'être fiers de lui appartenir et d'être fiers d'être soumis à son règne à lui et de vouloir le suivre, quoi qu'il en coûte. Te le prions au nom de Jésus. Amen.